et 3 semaines plus tard. C'était le matin et Thomas qui avait juste ouvert sa boutique. Elle poussa la porte, faisant entrer derrière elle toute la lumière de la rue. Sur son épaule était perchée la petite passerine. « Anna !» s'écria le garçon, et son cœur chavira de bonheur en la revoyant. Ils bavardèrent un peu, puis Tomek alla chercher la bague. Anna ouvrit-elle même le couvercle et fit rouler la goutte d'eau dans la paume de sa main. Ensuite, elle prit la passerine dans son autre main et la plaça tout à côté. « Bois, s'il te plaît, bois, mon oiseau !» lui dit-elle doucement. La perruche hésita un instant, puis tout alla très vite. Elle se pencha sur la goutte qui étincelait comme une perle, la fit glisser dans son bec. Enfin, d'un vif coup de tête, elle la bascula dans son rosier. « Voilà, elle ne mourra jamais !» murmura Anna. « Non, elle ne mourra jamais !» reprit Tomek en écho. Ils la placèrent ensuite sur un perchoir de bois que Tomek avait construit au-dessus du comptoir. Anna observa longtemps sa passerine en silence, puis elle dit à voix basse. « Tu sais, Tomek, il m'est venu une drôle idée. « Laquelle ?» demanda le garçon. « Eh bien, au moment où cette goutte d'eau est descendue le long de son gosier, j'ai eu la certitude que la rivière Gjar s'était remise à couler à l'endroit. Qu'elle n'avait coulé à l'envers que pour cette unique goutte d'eau-là. Pour qu'elle parvienne un jour dans le bec de cette petite passerine-là. Et que tout est fini maintenant. »
Je m'appelle Chloé, je suis dans CM2. Appuyez à la 10. François, Nick, Annie, Claude et Pilou, regardez les flots ourlés d'écume le flanc du paquebot. Celui-ci avançait sans à-coup, doucement, comme pour permettre à ceux qu'il transportait de savourer la griserie de sa course. « C'est merveilleux !» murmura Annie. « On a l'impression de respirer 2 fois plus. »« Allons passer nos maillots de bain, » proposa Claude. « Il y a une piscine à bord. Nous nagerons et nous pourrons nous bronzer au soleil. » Les enfants s'apprêtaient à descendre dans leur cabine quand des exclamations, derrière eux, les firent se retourner. Quelques passagers venaient de s'installer sur des chaises de pont pour lire tranquillement le journal acheté juste avant de monter à bord. C'était précisément ce journal qui provoquait de remous inattendus. « Avez-vous vu cet article ?» s'écriait un vieux monsieur. « On devrait interdire d'alarmer ainsi le public. Il ne peut s'agir que d'une plaisanterie. » « Quelqu'un cherche à saboter cette croisière !» suggéra une jeune femme. « Je ne suis pas de cet avis, » glapit une vieille demoiselle. « Je prends cela très au sérieux. Nous pouvons tous être assassinés d'un instant à l'autre. C'est affreux, terrible, épouvantable. »« Calmez-vous, mademoiselle !» coupa une femme qui achevait de lire le fameux article. « Le masque noir est un malfaiteur notoire, c'est entendu, mais ce n'est pas un meurtrier. Même s'il se trouve à bord de l'Aquilon, il ne tuera personne. » Les enfants se regardèrent abasourdis. « Le masque noir, à bord !» dit Claude. « Ça, c'est une fameuse aubaine. Si nous arrivions à le démasquer, la réputation du club des 5 s'étendrait fort loin. »« Toujours modeste comme la violette !» chantonna Pilou. « Ce qu'il faudrait, » dit Mick vivement, « c'est savoir ce que contient au juste cet article, qui semble bouleverser les gens. »« J'aimerais... » Il n'avait pas achevé sa phrase que Dago, éperonné par Berlingot, juché sur son échine, fila droit vers une chaise longue sur laquelle quelqu'un avait abandonné un journal. Le malicieux petit singe s'empara des feuilles imprimées et, triomphant, vint les offrir à Pilou, comme un trophée de guerre. Pilou en fut estomaqué. « Ça alors !» s'écria-t-il. « Ces animaux sont plus intelligents que bien des humains. Je crois qu'ils comprennent ce que nous disons. « Donne vite !» intima Claude impérieuse. Et, arrachant presque le journal des mains de son camarade, elle l'ouvrit d'un geste impatient. « Écoutez ça !» s'exclama-t-elle, sous le titre de « Le masque noir en croisière ». Voici ce que dit le journal. Ce matin, les rédactions de tous les quotidiens de Paris et de Marseille ont reçu un premier courrier, un petit bristol signé du masque noir et orné du lot bien connu. Les 4 autres se rapprochèrent de la lectrice, écoutant la suite de toutes leurs oreilles. Claude continua. La carte de visite du célèbre malfaiteur international portait ces mots inquiétants. Le masque noir vous salue bien et vous informe qu'il s'apprête à prendre 3 semaines de vacances à bord de l'Aquilon. Mais c'est un véritable défi au public, s'écria François sidéré. Si cette note a bien été rédigée par le masque noir, il faut que cet homme soit fou. Il donne à la police l'occasion de lui mettre enfin la main au collet. Il s'agit certainement d'une farce, estima Pilou. Si c'était vrai pourtant, risqua Annie.
Christina, CM2-3.
Vive patate. C'est très énervant à la fin. Quand Emma veut entrer dans la chambre de sa grande sœur, Justine dit toujours « Fais pas ci, touche pas à ça !» Avec Léo, son petit frère, c'est encore pire. Dès qu'elle touche à ses jouets, il se met à hurler. « Mouah, mouah, quel cauchemar celui-là !» Ça ne peut plus durer. Un matin, en se réveillant, il décide de ne plus jamais jouer avec eux. À partir d'aujourd'hui, je ne reste qu'avec Patate. Patate, c'est l'ombre d'Emma. Avec elle, il n'y a jamais de problème. Quand Emma lui dit « lève le bras », elle lève le bras. Quand elle lui demande « on danse », elle danse. Avec Patate, Emma peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Ce matin-là, avant de partir à l'école, Emma est inquiète. Aujourd'hui, c'est les sélections déléguées de classe. Et ça fait un peu peur quand même. Elle aimerait bien un petit câlin pour se rassurer. Mais à qui demander? Maman est très occupée. Aller voir Justine ou Léo? Jamais de la vie. Emma décide alors de faire un câlin à Patate. Mais serrer une ombre dans ses bras, ce n'est vraiment pas facile. Heureusement, à l'école, tout se passe bien. Emma est l'une déléguée. Le soir, rentrant à la maison, fière comme un coq, Emma ignore Justine et Léo. Elle ne leur parle même pas. Elle grimpe directement dans sa chambre pour apprendre sa poésie. C'est bien, Patate. Tu apprends très vite. En plus, tu me souffles toutes les réponses. Arrive l'heure du dîner. Maman appelle tout le monde à table. Emma dévale l'escalier et demande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Du poisson et des épinards. Burk, déçu, Emma s'installe à table et se met à penser. Dommage que Patate ne puisse pas manger à ma place. Pour ne rien arranger, c'est au tour d'Emma de débarrasser. Et pour ça, non plus, Patate ne peut pas l'aider. Quand arrive le moment du coucher, et comme tous les soirs, Emma a un peu peur quand il fait noir. Pour se consoler, elle cherche Patate. Mais évidemment, cette trouillarde s'est cachée sous les draps. Quand tout à coup, elle entend la voix rassurante de sa sœur. « Tu dors, Emma ?»« Non, pas encore. » »« Il m'énerve, Léo, à ronfler comme ça. »« Moi aussi, on dirait un mammouth. » Et les deux filles éclatent de rire. Ouf, Emma se sent mieux à présent. Justine et Léo, heureusement qu'ils existent quand même.